prions. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom et nous te prions, sois au milieu de nous comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
Dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus important, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné. En chantant tes louanges,
je viens dans ta présence.
Je viens dans ta présence,
Seigneur de l'univers.
Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louanges. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau.
Déposer mes fardeaux.
Déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ton abri mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force.
Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce qu'on peut être dans ta présence ce matin. Et c'est vrai que par rapport à cette poussière que Michel disait, ben, quelque chose avec toi, c'est que tu viens avec ton balai et tu viens et puis tu, ben, tu nettoies tout ça. Et on peut vraiment se décharger, on peut vraiment être propre devant toi. Et je te remercie parce que tu es grand et tu es digne de confiance. Je vous invite ce matin à pouvoir tout déposer. Et que durant ce temps qu'on vit ensemble, durant ce temps de louange, déposons tout ça et regardons la grandeur de Dieu et sa majesté. Du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je me voici.
pardonne et je pardonne en retour. Voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, il essaie de fuir au son de sa chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Gardage en âge, thank you. nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand.
J'avais juste envie de vous partager un petit truc. Cette semaine, ça a été assez difficile pour moi. Et on a pas mal de difficultés ces temps avec ma famille. Du côté de mon papa, il a perdu un frère, une sœur et un neveu en l'espace de même pas une année, quoi. Et c'était hyper dur. Et pour mon papa, je sais que c'est très douloureux. Et pour moi aussi. C'est normal. Et c'est vrai qu'après, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, tu es où? C'est une famille qui n'est pas du tout chrétienne non plus. Donc c'est clair que c'est aussi délicat pour mon papa. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce mercredi. On a eu l'ensuissement de mon cousin et de mon oncle en même temps. Donc c'était vraiment le père et son fils qui sont morts. Et il ne reste plus que mon cousin et ma tante. Et en fait, juste, je ne veux pas vous raconter tout ça, c'est pas pour... mais cette semaine, c'est vrai qu'on a vécu un... Désolé, je tremble un petit peu. Mais j'ai vu vraiment la présence de Dieu et la puissance de son nom. Pendant cet enterrement, en sachant qu'il y avait juste ma famille, juste de mon côté qui était chrétien, puis l'autre côté, ils sont, je sais pas comment dire le terme, mais ils s'en fichent, quoi. C'était dur, mais il y avait une paix, une présence de Dieu qui était dans ce lieu, qui était assez impressionnante. Et je crois que ça a touché plus d'une personne dans ma famille, dans le contexte. Ou en tout cas, mon cousin, qui est encore présent, qui se fait beaucoup de réflexions. Et je trouve ça génial, quoi, dans ce moment-là. Alors c'est pour ça qu'aussi, dans ce que Michel partageait, quand on a eu un échange de mails, et ce qui se passait ce matin, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, waouh, je vais préparer ces chants, je vais réfléchir. Je me dis, je ne pouvais pas passer à travers ce moment où Dieu, il restaure tout. On peut vraiment décharger nos soucis, nos peines, mais qu'il est toujours présent à côté, chacun. Et c'était encore un petit témoignage d'une personne qui me disait, qui n'était pas du tout chrétienne à la base, puis qui, tout d'un coup, il a rencontré Dieu, et il a dit, Dieu s'est manifesté, et il lui a dit, même si tu ne me suis pas, je serai à tes côtés. Et ça m'a bouleversé aussi, ce petit moment. C'est pas parce qu'on est chrétien ou pas, non, mais il est vraiment présent à chaque moment. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je peux pas m'arrêter de le louer, quoi, le prier, le contempler pour qui il est, pour sa présence. Voilà, c'était un moment où j'avais vraiment envie de vous le partager, parce que je trouvais important, en tout cas pour moi. Et aussi pour puisser prendre conscience aussi de tout ça. J'avais envie de terminer ce temps avec un chant qui me bouleverse à chaque fois que je le chante. C'est quand je sonde l'univers. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Alors je vous le propose que vous puissiez le chanter ou simplement l'écouter pour ceux qui ne le connaissent pas. Prenez-le comme une prière et réfléchissez-y. Alors, on le prend.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créé, les océans, les mers.
Nous arrivons au temps du message. Nous allons donc écouter la parole de Dieu qui s'exprime dans l'Écriture. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi, dit Dieu, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Nous prions. Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous te prions pour que ce matin tu nous accordes ton Saint-Esprit, pour que tu nous donnes un cœur ouvert, une intelligence accueillante à ta parole. Nous te prions pour que derrière les mots que nous entendons, tu nous donnes de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Amen.
Ce matin, nous allons vous parler de l'histoire de Bathsheba avec David, du point de vue de Bathsheba. J'ai dit « nous » parce que nous serons deux à prendre la parole, Heidi Anchaud et moi. Je savais que j'ai demandé à Heidi de me rejoindre parce que je savais que cette histoire lui tient à cœur, parce qu'elle est différente de moi et qu'elle a autre chose à dire. L'histoire de Bathsheba s'étend sur tout le chapitre 11 de 2 Samuel 11 et les trois quarts du chapitre 12. C'est long. Donc, je vais vous raconter ce qui concerne David et je vais vous lire les versets qui concernent Bathsheba. Parce que je crois que c'est important que nous ayons ce qui est dans la Bible pour Bathsheba. Donc l'histoire commence avec l'envoi de Joab, chef de l'armée, des serviteurs de David et de tout Israël dans le pays des fils d'Ammon pour faire la guerre, mettre le siège devant Rabba. Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de sa terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. David envoya prendre des renseignements sur cette femme et l'on dit « Mais c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impureté, ce qui indique qu'elle risquait de tomber enceinte. Elle était au milieu du cycle. Puis elle rentre chez elle. La femme devint enceinte. Elle en informa David et déclara « Je suis enceinte. » Là, David est bien embêté. Comment expliquer que Bathsheba soit enceinte alors que son mari est à la guerre? Il trouve la solution, faire revenir Uri pour qu'il couche avec sa femme. Seulement Uri, par loyauté envers Dieu, envers Joab, envers l'armée, envers ses hommes, ne veut pas rentrer chez lui coucher avec sa femme. David l'invite chez lui, lui offre un bon repas, le saoule. Mais même sous, Uri reste fidèle à ses valeurs. Il ne va pas coucher avec sa femme. Que faire? C'est assez extrême. David décide de le faire tuer en gardant les mains propres. Il ordonne à Joab de le mettre en première ligne, là où il sera sûr qu'il mourra. Et c'est ce qui arrive. Quand le message, il y a avec Uri, il n'y a pas seulement Uri qui meurt, hein. Il y a aussi des serviteurs de David, il y a aussi d'autres, il y a des civils, il y a plein de soldats dévoués à David qui meurent. Quand le messager vient annoncer ces tristes nouvelles, David minimise. Mais non, ne t'en fais pas, c'est la guerre. C'est les aléas de la guerre, ça arrive que des hommes meurent. Renforce seulement ton attaque. La femme d'Uri apprit qu'Uri, son mari, était mort. Elle pleura son mari. Le deuil passé, David la fit chercher et l'ajouta à sa maison. Il en fit sa femme. Elle lui enfanta un fils. Mais ce qu'avait fait David déplut au Seigneur. Dieu n'est pas d'accord. Il lui envoie le prophète Nathan. Pour David, le chemin jusqu'à la prise de conscience de ce qu'il a fait prendra du temps. Nathan lui parle en parabole. Il lui fait connaître la colère de Dieu contre lui. Mais ce n'est qu'à l'énoncé des conséquences de ses actes, des malheurs qui vont lui arriver depuis le sein de sa famille, que David s'écrie « J'ai péché contre le Seigneur ». Alors le Seigneur lui fait connaître son pardon en ces termes. Il dit, Nathan lui dit, « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché, tu ne mourras pas, mais l'enfant qui t'est né mourra. » Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il tomba malade. Pendant la maladie de l'enfant, David est dans tous ses états, il supplie Dieu de ne pas le faire mourir à cause de lui. Il ne veut pas prendre de nourriture, il ne veut pas se coucher sur son lit, il dort par terre. L'enfant meurt. Au moment de sa mort, David se relève. Il a espéré que Dieu aurait pitié de lui et que l'enfant vivrait. Maintenant, ça ne sert à rien de se lamenter. C'est fini. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et il coucha avec elle. Elle enfanta un fils et David lui donna le nom de Salomon. Le Seigneur l'aima et l'envoya dire par l'entremise du prophète Nathan et il lui donna le nom de Yedidia, c'est-à-dire aimé du Seigneur, à cause du Seigneur.
Bathsheba et David, c'est une histoire bien connue. Comme moi, plusieurs d'entre vous l'ont sûrement entendu à l'école du dimanche. Un peu radouci, bien sûr, pour éviter de nous troubler. Et puis, on l'a étudié une fois ou l'autre dans un groupe de jeunes. On a lu le nom de Bathsheba à plusieurs reprises, dans différents contextes, chrétiens ou non. Ce nom synonyme de séduction, d'adultère, de chute de David. L'histoire de Bathsheba est devenue un symbole, un raccourci, une façon de parler de la sexualité, de la séduction, parfois dans un milieu laïque, pour évoquer la sensualité d'une façon presque positive, parfois dans un milieu chrétien, plus rigide, pour condamner cette femme qui incarne la séduction de ce pauvre David, et aussi pour parler du péché de David et de sa repentance. L'histoire en devient presque banale, apprivoisée, édulcorée, une simple histoire d'adultère. Et puis un jour, on relit le texte. Et là, le côté choquant et dur du récit refait surface. Et le malaise par rapport à ce que ce texte rapporte, mais aussi par rapport à ce qu'on a fait de ce texte, s'impose à nous. David est roi. Un roi au sommet de sa gloire. Bathsheba, elle, est épouse et fille de conseiller dignitaire, officier de l'armée de David. Mais elle est une femme, elle est jeune sûrement, et elle est vulnérable dans cette société. David la voit, la désire, il ne se pose pas de questions. Il agit, il la viole, il la renvoie chez elle. Cela se passe il y a environ 3000 ans. Bathsheba et David vivent dans une société patriarcale, c'est-à-dire une société dans laquelle les hommes, par opposition aux femmes, ont quasiment tout pouvoir et les femmes quasiment aucun. Le rapport de force est donc totalement en faveur de David, d'autant plus qu'il est roi. Il fait ce qu'il veut et il en profite pour avoir des relations sexuelles avec Bathsheba, une femme mariée. En fait, on est devant une description de ce qu'on appelle de nos jours un viol par abus de pouvoir, sous la contrainte réelle d'un déséquilibre de pouvoir. Un « power rape », comme disent les anglophones. Y a-t-il eu violence physique? Le texte ne le dit pas. Mais sans donner plus de détails, vous êtes capable de vous représenter toute l'horreur de cette scène pour cette femme et l'impossibilité pour elle d'y échapper. David viole Bathsheba parce qu'il le peut, parce qu'il le veut. Et nous voilà déjà bien loin de la gentille histoire de séduction ou d'adultère que nous avions peut-être en tête. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel, verset 27. Bathsheba, elle n'a que peu voix au chapitre. Elle existe à peine dans le récit. Elle est objet du désir de David, elle subit, elle n'a pas d'autre choix que d'obéir. Elle perd les droits sur son corps, elle perdra son mari, elle perdra son enfant. Elle est à la merci de David et de la cour qui entoure le roi. L'attitude de David et son acte nient la dignité et la liberté humaine de Bathsheba. Et le récit lui-même ne fait que peu de cas de sa personne et contribue ainsi à un sentiment de malaise. On peut penser que le narrateur est un homme, ça semble probable. Et en tout cas, il raconte l'histoire avec David au centre. Bathsheba, elle, est réduite au silence. Quasiment. On n'a pas son point de vue, on ne sait pas ce qu'elle a ressenti, le vécu de la victime est totalement occulté. Et c'est là sans doute ce qui diffère le plus de notre sensibilité du XXIe siècle, ce qui rend ce récit étrange, froid. On est à la limite de l'indifférence par rapport à Bathsheba. On est quasiment dans la caricature, le stéréotype en tout cas. Bathsheba est une femme, belle, et donc un objet sexuel aux yeux de David, et présentée par le texte lui-même comme un élément passif du récit. Mais dans ce récit, qui peut nous heurter, on prend soudain de la hauteur avec l'irruption de Dieu dans cette histoire et de sa perspective des choses. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dans la suite aussi, tout tourne autour du péché de David et des conséquences pour David, et de Bathsheba, on sait juste qu'elle tombe enceinte. Elle le fait dire à David. Elle porte ensuite le deuil pour son mari et elle se retrouve à nouveau au palais. Rien sur le tort qu'elle a subi, la violence qu'elle a endurée, la dégradation qu'elle a vécue. Un silence assourdissant. Mais ce que Bathsheba avait subi, Dieu, lui, l'avait vu et il n'est pas resté silencieux. Un silence assourdissant donc. Pas si différent de ce que certaines femmes vivent de nos jours. Bien sûr, dans nos pays, la société a beaucoup changé. Les femmes ont obtenu une égalité, théorique en tout cas, légale souvent, mais ce n'est pas le cas partout, et de loin. Et même dans nos sociétés, devant la force physique ou le déséquilibre de pouvoir, nous savons bien que des milliers de femmes sont réduites au silence, par peur des conséquences, par peur de ne pas être entendue ou crue. Mais ce que ces hommes font déplaît à l'Éternel. Cette affirmation est tout ce qu'il y a de plus actuel et doit être répétée. Ce que ces hommes font déplaît à l'Éternel. Les cas d'abus sexuels et d'abus de pouvoir sont nombreux, même dans les églises. On pourrait mentionner plusieurs célébrités du monde du spectacle ou de la politique, vous les avez tous en tête. On peut évoquer le hashtag MeToo sur Twitter qui a levé le voile sur l'étendue du phénomène. Le prix Nobel de la paix cette année a été accordé à un médecin chrétien qui opère les femmes victimes de violences sexuelles et aussi à une femme elle-même victime de violences aux mains de l'État islamique et qui se bat pour que ces violences soient condamnées. Tout ceci, et on pourrait dire beaucoup d'autres, citer beaucoup d'autres exemples, nous montre que ces questions de harcèlement, d'abus de tout genre et de viol ont une importance capitale dans notre monde contemporain. Nous devons donc être sensibles à cette question dans notre rôle de lumière et de sel dans ce monde. À l'époque de Bathsheba et de David, on est dans une société, dans un contexte où il n'y avait aucun frein à ce que David pouvait faire. Et pourtant, Dieu le tient pour responsable. Dieu ne cautionne en aucun cas cette vision de l'homme, l'homme au sens masculin du terme, qui prévaut encore trop souvent de nos jours. Cette idée qu'un homme ne peut pas se maîtriser, ne peut pas maîtriser ses envies. Cette tolérance de certaines attitudes, paroles ou même actes envers les femmes, une certaine complaisance, indulgence, des blagues douteuses, des excuses, des justifications. Non, Dieu ne cautionne pas. Dieu tiendra David pour seul responsable de ses actes. Les hommes sont responsables devant Dieu de leur façon d'agir envers les femmes, même lorsque la situation de pouvoir est en leur faveur, surtout parce que l'équilibre des pouvoirs est en leur faveur. Aucune circonstance extérieure, aucune situation, aucune pression sociale, aucun lieu, aucun style vestimentaire ne justifie jamais le mépris envers la dignité des femmes. Dieu, lui, ne prend jamais la stature froide d'un observateur. Il ne reste pas non plus dans un silence complice des faits. Il fait toujours irruption dans le récit avec la notion de justice. Il s'identifie à la victime, comme toujours, à la personne lésée, et cherche à lui rendre justice. Cet acte de David est condamné par Dieu. Mais Bathsheba, elle, n'est à aucun moment condamnée. Dieu prend fait et cause pour elle.
Je dois vous avouer que moi, dans cette histoire, j'avais toujours gardé dans l'arrière-pensée que peut-être le fait que Bathsheba se soit baignée sur la terrasse de David et qu'elle n'ait rien dit, peut-être qu'elle n'était pas si mécontente que ça de cette histoire. Mais c'est vrai que plus j'ai lu cette histoire et d'autres, plus j'étais en colère contre David parce que son attitude a vraiment été ignoble. Il n'y a pas besoin d'aller. La Bible n'est pas un livre saint au sens où il dit que des belles choses. Rien que dans le chapitre suivant, il y a l'histoire du viol de Tamar. C'est son frère aîné, le fils de David, qui la viole. Dans notre texte, dans le texte de Bathsheba, j'ai lu 9 versets concernant Bathsheba. La totalité de l'histoire en porte 54. Donc, il y a peu de place, comme l'a dit Heidi. Dans l'histoire de Tamar, l'équilibre est beaucoup mieux respecté. Et surtout, on sait qu'elle a refusé l'invitation d'Amon. On sait qu'elle lui a résisté. Le viol est décrit en tant que tel. Et l'expression de son désespoir qui était profond, parce qu'à cette époque, une femme violée était totalement déshonorée et n'avait plus aucun statut, son désespoir est connu. On sait aussi que David et Absalom n'ont pas aimé du tout ce que ce qu'Amon avait fait, même si on conseille à Tamar de se taire, par peur du scandale, et même si elle finit oubliée dans la maison de son frère Absalom. Et puis, je me suis dit aussi que si Dieu avait considéré que Bathsheba avait une quelconque responsabilité, il l'aurait dit, mais il a dit David, ce que David avait fait. Hein, comme l'a dit Heidi, c'est le seul responsable. Mais ce message a un message très fort pour nous, je trouve. À première lecture, ce qui m'a frappée, c'est la façon dont le texte parle de Bathsheba. Au début du texte, quand David demande des renseignements, on lui répond « Mais c'est Bathsheba !» Comme si c'était l'évidence que tout le monde la connaissait dans le quartier, dans la société. Elle a un prénom. On sait le prénom de son père, Eliam. On sait le prénom de son mari, Uri. On sait l'origine de son mari, le Hittite. C'est un peuple qui n'était pas israélien à la base, mais qui était resté dans le pays de Canaan après la conquête et qui avait embrassé la religion juive. Et puis, on sait aussi que Uri, le Hittite, c'était un des 37 valeureux guerriers de David. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Au début de notre histoire, Bathsheba a un nom, c'est une personne, c'est quelqu'un, vraiment. Quand David a couché avec elle, c'est la femme. Elle n'est plus que l'objet du désir de David. Plus loin, après la mort d'Uri, on dit la femme d'Uri. La femme d'Uri a appris que son mari était mort, ou l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, elle n'est plus que le problème de David. On ne la voit plus qu'à travers la façon dont David lui-même la voit. Mais, tout à la fin de l'histoire, on dit « David consola Bathsheba, sa femme ». Elle a retrouvé un prénom, elle a retrouvé une stature, elle est de nouveau une personne, elle est de nouveau quelqu'un. Dans cette histoire, ce n'est pas elle qui a changé, c'est David. Il lui aura fallu beaucoup de temps, pour comprendre les conséquences de ses actes. Après la mort de l'enfant, David... vous avez suivi ce que j'ai dit, là? J'ai dit, ce n'est pas elle qui a changé, c'est David. Et pour que David puisse changer, il lui a fallu du temps. Et c'est après la mort de l'enfant qu'on se rend compte du changement de David. Je pense que pendant cette maladie de son enfant, David a vraiment pris la mesure de ce qu'il avait fait et il en a souffert. Et quand l'enfant est mort, il avait accepté que Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Et il avait accepté que lui, il était un être humain capable de faire du mal. Dans tout ce processus, il était retombé sur terre de roi glorieux, qui peut tout, qui est au-dessus de tout, à simple humain responsable de ses actes devant Dieu et devant les hommes. Et cette femme qui était juste l'objet de son désir est devenue à ses yeux Bathsheba, sa femme, celle qu'on respecte. Donc Bathsheba n'a pas fini déshonorée et oubliée comme Tamar dans un coin du palais. David est retourné vers elle et elle a eu un autre enfant. À cette époque, en retournant vers elle, David a lavé sa honte et rétabli son honneur. Ça ne se passerait pas comme ça aujourd'hui, on ne voudrait pas se marier avec son violeur. Mais là, à cette époque, vraiment, c'était important pour elle. À travers cet enfant que Dieu a appelé Yedidia, c'est-à-dire chéri du Seigneur, tout en le berçant, j'imagine que Bathsheba pouvait se souvenir qu'elle était aimée de Dieu. Je ne sais pas si Bathsheba et David ont connu l'amour avec un grand A, ça m'étonnerait beaucoup. Nous n'entendrons plus parler d'elle jusqu'à la mort prochaine de David, parce qu'il y a conflit, il y en a qui complotent pour prendre le trône de David. Et c'est Nathan qui conseille à Bathsheba d'aller défendre la place de Salomon sur le trône. Elle doit rappeler à David sa promesse et Salomon monte sur le trône. Elle est citée aussi dans le 1 Chronique au chapitre 3 qui donne la liste des fils de David. David a eu 7 fils à Hébron. Les prénoms de chaque mère sont donnés. À Jérusalem, il a eu 9 fils et seul le nom de Bathsheba est donné, comme si on avait voulu mettre le nom de Bathsheba en avant, en valeur. Et puis, dans la généalogie de David, elle est citée comme la femme d'Uri, pour rappeler la faute de David et le pardon de Dieu. On voit que Dieu lui a gardé son pardon parce que Jésus est de sa descendance. Dieu a redonné sa valeur à Bathsheba et à travers elle, à toutes les femmes victimes de viol. On a chanté « Dieu est grand ». Dieu est grand et il hait le mal et il le fait savoir. Il est en colère quand on nous fait du mal, quel qu'il soit. Il n'y a pas que les viols qui nous font du mal. Il est en colère quand nous faisons du mal à autrui. Il se met en colère parce que s'il se taisait, on pourrait croire qu'il le cautionne et alors il n'y aurait plus de frein. En RDC, là où le docteur Denis Mukwege répare les femmes, on pourrait se demander ce que Dieu fait, parce que l'horreur dure depuis si longtemps et il y a tant de femmes et d'enfants qui vivent l'horreur. Je pense que ce médecin, Denis Mukwege, est la voix de Dieu. À travers lui, c'est Dieu qui dit « Non, ça ne doit pas exister. Ce que vous faites, messieurs, ne doit pas exister. » Et puis, c'est aussi les mains de Dieu parce qu'il répare les femmes. Elles viennent à la consultation, elles sont écoutées. Elles peuvent recommencer une vie différente, nouvelle, retrouver une dignité après son intervention. Moi, pour ma part, j'aimerais bien que Dieu fourdouera ces hommes sur place tout de suite. Mais j'ai une assurance, je ne sais pas quand, mais je suis sûre que Dieu ne laissera pas ces crimes impunis. Quand nous souffrons, il prend en main notre cause pour nous aider à en sortir, comme il l'a fait pour Bathsheba. Et il nous pardonne pour nous aider à changer, comme il l'a fait pour David. Bathsheba, dans son malheur, a eu de la chance que David a reconnu sa faute. Mais comment font les femmes dont l'agresseur ne reconnaît pas sa faute? Comment font tous ceux à qui on fait du mal, hommes et femmes, et dont le mal qu'ils doivent subir n'est jamais reconnu? Il y a Dieu, notre défenseur, et son amour indéfectible et réparateur. Et il y a nos proches ou des professionnels qui peuvent apporter leur bienveillance, leur consolation et attester que la faute commise contre nous a bel et bien existé. J'aimerais vous lire un texte qui parle de la consolation de Dieu pour celui qui est victime de la méchanceté d'autrui. Il s'adresse à Jérusalem, mais à travers elle à toutes les femmes stériles, violées, insultées, abandonnées, déshonorées. Il est écrit au féminin, mais les femmes ne sont pas les seules à se sentir honteuses, insultées ou abandonnées. Et je crois que dans certaines conditions, un verset peut être sorti de son contexte parce qu'il contient exactement la parole dont nous avons besoin pour repartir. Il faut alors oser s'y accrocher, le saisir et s'y accrocher coûte que coûte. J'espère que ceux qui en ont besoin trouveront quelque chose. C'est dans Ésaïe 54, les versets 1 à 8. Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant. Pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Agrandis l'espace de ta tente, tends tes toiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses. N'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublée, on ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Voici pourquoi. Tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Celui qui te libère, c'est le Dieu d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragée. Mais le Seigneur t'a rappelé. Oui, ton Seigneur dit, est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie quand il était jeune? Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre. J'étais très en colère contre toi, ou tu l'as cru, et j'ai refusé de te voir pendant un court moment, mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela, moi qui te libère. Sortir de la souffrance, que l'on soit victime dénonçant le mal subi ou bourreau ayant pris conscience du mal que l'on a commis, peut être long et difficile pour les deux postures. Il faut oser parler de combat, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit, quand les pensées qui nous font du mal reviennent, de décider de choisir, parfois contre nous-mêmes, la pensée, le verset, l'image, la parole que Dieu nous a transmise à travers quelqu'un, à travers la Bible, à travers une lecture, un chant, que sais-je, de choisir de nous y accrocher. Et c'est ça qui est parfois difficile pour petit à petit vivre autrement. Je ne crois pas être pessimiste mais réaliste en disant que nous en porterons la trace toute notre vie. David, on peut le voir si vous lisez les chapitres suivants, il s'est souvenu de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait appris dans cette histoire. Mais quand ressurgiront en nous les anciennes manières de réagir, il nous faut nous réaccrocher, nous réapproprier la parole que nous avons reçue et qui nous avait aidé à en sortir. Quoi que nous vivions, quoi que nous fassions, nous aurons toujours un nom devant le Seigneur. Dieu est vivant et nous aime pour que nous vivions.
Dieu prend en main la cause de ceux qui souffrent. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Si le mal détruit la personne, notre nom reste devant l'Éternel. Notre personne existe devant Dieu. Quelques éléments forts de ce qui nous a été apporté aujourd'hui, je vous invite à un temps de silence pour laisser résonner ce que nous avons entendu. lune me glace, si le soleil, si la lune me glace, si le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent, si mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, et si mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi.
Mon destin, ton salut, mon refuge, tout. chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin.
Nous voici invités à la table du Seigneur. Et devant la table, devant le pain et le vin, nous confessons que nous ne sommes pas indemnes de faute, mais qu'au contraire, nos vies sont marquées par le mal. Et que bien souvent, nous propageons la mort autour de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes pris comme pour un Dieu et où nous avons voulu posséder les gens et les choses. Pardonne-nous lorsque nous avons manipulé notre prochain pour en faire notre serviteur, notre chose. Devant la table, nous reconnaissons que notre libération du mal et de la mort a un prix. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans prix à payer. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as tout mis en œuvre pour notre salut, tout jusqu'à l'abandon absolu sur la croix. Avec le pain rompu, avec le vin partagé, nous rappelons la mort du Seigneur Jésus qui paye le prix de notre libération. Son corps brisé, son sang versé garantissent la nouvelle alliance que Dieu nous offre. En mangeant le pain, en buvant le vin, nous affirmons notre volonté de laisser la vie du Christ s'épanouir dans nos vies personnelles. Et en participant ensemble au pain et au vin, nous manifestons la dimension communautaire de l'Église, l'Église comme un corps nourri par le Christ. Je lis l'institution de la Sainte Cène dans l'évangile de Marc. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête de la Pâque. Puis ils s'en allèrent au Mont des Oliviers.
Ainsi, le pain que nous rompons est le signe et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de vin pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ces signes, Dieu nous rappelle qu'il a brisé le cycle du mal. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir donné Jésus. Merci pour sa mort et sa résurrection qui nous assure ton pardon, qui nous assure que tu nous veux en vie, qui nous assure que tu as le dernier mot, que c'est toi qui as le mot de la fin, toujours. Sois avec nous dans nos cœurs quand nous prendrons cette sainte scène. Que ta présence nous inonde chacun. Amen.
Si vous désirez participer à la sainte scène, au vin et à la coupe en particulier, vous pouvez demander à Denise, elle vous l'apportera. prions. Seigneur, que toute cette semaine, ce pain et ce vin nous nourrissent et nourrissent notre amour du prochain, un amour vrai, et qu'ils nourrissent la recherche de ta volonté dans nos vies. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre, empêchés par l'âge ou la maladie, sois leur réconfort et accorde-leur ta paix. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je vous invite maintenant à participer à l'avancement du règne de Dieu, parce que c'est bien le but pour lequel nous recueillons l'offrande. Nous te remercions, Seigneur, de nous associer à ton action dans ce monde. Et nous te prions pour que, au travers de cet argent, ton royaume se manifeste, puisse être manifesté, puisse être visible, actif. Donne sagesse et discernement à ceux qui géreront cet argent. Amen. Les annonces, j'imagine.
Donc, on est en plein dans l'action paquet de Noël. J'avais bien expliqué ce que c'était. S'il y en a qui n'étaient pas là quand j'y ai expliqué, ils ont qu'à revenir vers moi pour savoir ce que c'est cette action paquet de Noël pour les pays de l'Est. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez apporté. Dans 2 semaines, on confectionne les paquets pour les enfants avec l'école du dimanche. Donc, ce serait bien si vous nous apportez rapidement tout ce qu'on a besoin pour les paquets pour enfants, pour que les enfants aient le plaisir de faire un paquet jusqu'au bout avec tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et il n'y a pas que les articles pour enfants, on a aussi besoin de shampoing, brosse à dents, chocolat, biscuits, etc. pour les paquets pour enfants. Et dans la foulée, le mercredi 7 et après le 14 novembre, on a aussi attaqué les paquets pour les adultes. Donc en fait, les affaires pour les adultes, il faut aussi les apporter rapidement. Et j'ai mis une feuille sur le panneau dans le foyer pour vous inscrire pour la confection de ces paquets. ce serait bien qu'on soit quelques personnes pour que, ouais, c'est quand même du boulot, il y a quelques kilos à mettre dans ces paquets. Alors, je vous remercie déjà. Et donc, Elisabeth Bécher et moi-même, on est à disposition pour les questions. Et puis, je change de sujet, je juste profite d'avoir le micro pour vous transmettre des salutations de Roger et Dominique Sewell, à qui on a rendu visite la semaine passée, et puis ils vont bien, ils vous saluent tous bien, et puis voilà.
Alors, pour la suite des annonces, lundi 22 octobre, Island Breeze. Lundi 22 octobre. Demain, oui. juste une petite information, ce n'est pas Jem qui organise, hein, c'est Brigitte et Johnny Killa qui organisent ce concert. Les enfants sont bienvenus. Ensuite, mardi 23 octobre, prière communautaire à 20h15 à l'église. Ensuite, le 28 octobre, qui est un dimanche, à 16h à la colline à Crissier, un concert de soutien du groupe de jeunes CTT GPS. Et puis, ici, à l'église, le 10 novembre. Samedi 3 novembre, Wands. Je crois qu'on peut encore s'inscrire, voire même sur place, mais c'est toujours mieux de s'inscrire avant, il y a des petites réductions. Ensuite, 3 et 4 novembre, la kermesse œcuménique de Mérin, avec deux stands qui sont tenus par l'église. Pour plus d'informations, vous pouvez voir avec Claude. Merci. Ensuite, mardi 6 novembre, au fil d'argent, un témoignage de Marjorie Weffler sur son enfant et la maladie de son enfant, où tout le monde est invité. C'est à 14h30 le mardi 6 novembre. Et puis, la garderie La Framboise qui recherche un trésorier. Là aussi, vous pouvez vous adresser auprès de Claude, qui a la deuxième casquette. Et puis, Claude.
Est-ce que le grand-papa du Pertuis serait d'accord de nous parler d'un heureux événement ?
Oui, effectivement, depuis presque 7 jours, la nuit de dimanche à lundi dernier, une petite fille est née chez Joël, qui s'appelle Maxine, avec un N. Voilà. Je n'avais jamais entendu ce nom, mais on est très reconnaissant.
Dieu bénisse Maxine et ses parents. Nous partageons les joies, les difficultés, mais aussi les peines. Et parmi les peines, certains d'entre vous se souviennent d'une dame qui est membre ici de la communauté, qui s'appelle Betty Monnier. Son mari est décédé en début de semaine. Et le service d'adieu pour Georges Monnier aura lieu, pas demain, mais le lundi suivant, le lundi 29 octobre. 29 octobre, donc pas demain si vous l'avez noté, c'est 29 octobre au temple de Nyon. À 14h, oui c'est juste. Voilà, on pense à eux aussi, on pense aussi à ce que tu as dit, le deuil dans ta famille. Que le Seigneur permette que devant ces choses éternelles, quelque chose d'éternel rejoigne nos cœurs, qu'il soutienne aussi Madame Monnier et puis les enfants qui étaient aussi en ce temps, en leur temps aussi, en contact avec l'Évangile. Et M. Monnier était aussi, il est mort dans la foi au Seigneur. Voilà, je repasse la parole.
Pavézé, oui, vous pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pavézé, un écrivain italien, dans son journal a dit « Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. Notre Dieu est ce Dieu-là. » Devant qui nous pouvons exprimer notre faiblesse, sans qu'il s'en serve pour affirmer sa force. Allez dans l'assurance de la qualité de cet amour-là de notre Dieu envers chacun d'entre vous. Que votre semaine soit bonne. Allez en paix. Amen.